Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
L'interview du jour.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, à l'écoute de Radio Diwa sur le 107.5 FM et le www.rdwa.fr. C'est l'interview du jour. Dans le studio avec moi, Philippe Guyot, ainsi que Sanou Tamang, qui sont venus nous parler alors d'un sujet qui va pas être forcément aisé à saisir tout de suite, mais en tout cas, il va s'agir du Népal, de trekking, mais de beaucoup d'autres choses. Bonjour Philippe et bonjour Sanou.
Bonjour, bonjour, namasté.
Namasté.
C'est bien, on va pouvoir faire un petit peu de népalais aussi. C'est l'occasion de se familiariser avec une langue qu'on n'entend pas beaucoup dans le coin, dans le Diwa.
Oui, c'est bien, bien pour moi aussi, parler népalais, que bien pour que français.
Alors, Philippe Guyot, vous allez parler de Panauti Mandala, qui est non seulement le nom d'une ville ou d'un village, mais également un parcours de trekking qui propose un itinéraire particulier. Et c'est justement tout l'intérêt de cette interview, c'est que vous allez nous parler de cet itinéraire et de ce qu'il a de particulier par rapport à d'autres formules de trekking touristiques habituelles.
Oui, bien merci de nous recevoir pour parler de ce projet. Panauti Mandala. Panauti, c'est une petite ville qui est à... Au Népal, il dirait un village, mais nous, c'est plus gros que dit. Qui est à une vingtaine de kilomètres à vol d'oiseau au sud-est de Katmandou. Et sur cette petite ville, depuis une vingtaine d'années... un éducateur français a fait un travail absolument extraordinaire, humainement parlant. Il a été le papa d'une cinquantaine d'enfants des rues, d'enfants récupérés à droite à gauche, dont les parents étaient absents ou la mère était célibataire. Enfin bon, voilà, les parcours difficiles de jeunes enfants. Et en une vingtaine d'années, eh bien, ces 50 enfants, il les a amenés à l'âge adulte. Et chose assez extraordinaire compte tenu de la situation sociale du Népal, sur les 50 enfants, ils sont tous maintenant, ils ont tous un travail, ils sont tous intégrés. Il y en a beaucoup qui sont mariés qui ont un rôle social non négligeable dans leur communauté.
C'est la situation au Népal dans les petites villes ou les villages, tout dépend de votre vision des choses, mais elle est globalement compliquée. Il y a beaucoup d'enfants des rues, comme vous dites.
Bon, le Népal, c'est un pays derrière les sourires et les belles images de montagne. C'est un pays qui souffre beaucoup. Bon, on a tous entendu parler du tremblement de terre. Mais c'est un pays qui a vécu 10 ans de guerre civile. C'est un pays où il y avait un régime féodal. Il y a un régime de caste, même si les castes ont disparu officiellement depuis 50 ans. Ça imprègne la société. C'est une société extrêmement inégalitaire. Et on s'en est aperçu suite au tremblement de terre, mais c'est vraiment un pays où l'État ne fonctionne pas. Voilà, chacun se démerde. Il n'y a aucune protection, il y a des énormes inégalités, il y a une pollution terrible sur la vallée de Katmandou. Voilà, mais ça n'empêche que c'est un pays merveilleux et que quand on a mis le doigt dedans, moi c'était il y a 26 ans, on n'a qu'une envie, c'est d'y retourner. Et enfin, la plupart des gens qui découvrent ce pays restent très attachés au Népal et aux Népalais surtout.
Alors, ça explique pourquoi vous y allez, pourquoi vous proposez d'y aller. Néanmoins, ça m'explique pas le lien avec l'homme dont vous parliez, cet éducateur qui a eu un rôle important dans la ville de Panaouti. Quel est le rapport avec les itinéraires de trek que vous proposez ?
Alors, il faut que je me présente un petit peu. Moi, donc, je suis accompagnateur en montagne. J'ai découvert le Népal en 91. Et à partir de là, j'ai proposé des voyages au Népal. Pendant toutes les années 90, j'ai été au Népal une à deux fois par an pour y encadrer des séjours que j'avais créés, que j'avais montés. Voilà. Bon, mon regard sur le Népal, bien au tout début, c'est l'émerveillement, c'est que, comme tout le monde, on voit la vitrine. Et puis, bien entendu, on voit petit à petit tous les aspects de l'arrière-cour du pays. Et puis surtout, il y a deux choses qui m'avaient frappé. Bon, déjà, alors qu'en arrivant la première fois, on se dit... Ce pays, il est tellement beau, les gens sont tellement démerdards, travailleurs, à trouver les solutions, etc. On se dit, il ne peut que aller vers du progrès, vers du mieux-être, etc. Et au fur et à mesure que les années passaient, moi, ce que je voyais, c'était que ce que j'aimais du Népal s'effritait. Et par contre, la misère, elle grossit, l'exode rural s'amplifie, la vallée de Katmandou, il y a 26 ans, c'était 1 million d'habitants, maintenant c'est quasiment 10 millions d'habitants, c'est insupportable, c'est invivable. Et le tourisme là-dedans, eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? On emmène des gens qui viennent voir des gens qui sont tout sourire dans la montagne, qui travaillent la terre, qui font bien à manger aux touristes, etc. Il y a quelque chose qui ne me satisfaisait pas vraiment. Et surtout, j'avais clairement conscience que ce tourisme qu'on propose, que les agences proposent, contribue, va dans le sens de l'exode rural, de la concentration des gens sur Katmandou, de l'accroissement des inégalités. Pourquoi ? Une simple constatation, je ne sais pas si les gens qui vont au Népal se posent beaucoup la question de où est dépensé l'argent que leur voyage amène sur le Népal. Mais s'ils voyagent par une agence, 90 à 99% de l'argent qui sera dépensé sur le pays va l'être sur Katmandou. La nourriture est achetée à Katmandou, les porteurs sont recrutés à Katmandou, le bus par lequel on va partir, il est réservé à Katmandou, les équipements ils sont achetés sur Katmandou, et l'argent qui reste sur l'agence de trek, eh bien, il sert à rémunérer des gens qui habitent sur Katmandou. Et à côté de ça, eh bien, on va prendre des photos, on va passer dans des villages, on va aller dans des endroits magnifiques. Et ces endroits magnifiques, eh bien, les gens ils se font prendre en photo, mais ils en ont quasiment aucun retour. Aucun retour en amélioration de leurs conditions de vie et aucun retour en capacité, moyen de rester dans leur village, justement. Et au contraire, ça ne peut que leur donner envie d'aller à la ville. Et puis maintenant, ce qui est plus grave, c'est l'envie d'aller travailler, trouver des sous à l'étranger.
Sanou, quel est votre regard sur ce problème-là, vous ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Quel problème ?
Des touristes qui viennent au Népal et dont l'argent est en fait ne sert pas vraiment pour les bonnes choses, ne sert pas aux gens qui habitent dans les montagnes ou dans les villages.
C'est vrai qu'il a fait du voyage avec de l'agence. Tout est l'argent, ça reste en Katmandou. Ça ne va pas où il a vraiment besoin. Quoi. Et ce parcours, c'est une idée aussi pour aider du gens à la village directement à bénéficier et pour qu'il a besoin. Donc, je sais pas.
Ça nous fait une transition de tout trouver. C'est effectivement, vous venez de le mentionner, ça nous, c'est le lien direct entre le parcours que Philippe propose et le fait d'avoir un retour direct sur le lieu où ça se passe. C'est bien ça dont il s'agit, Philippe.
Tout à fait. Donc, si je poursuis un petit peu l'histoire, dans ces années 90, il s'est trouvé que je rentrais en France et dans l'avion, j'étais assis à côté d'un Français qui rentrait aussi du Népal et qui était cet éducateur. Et pendant tout le trajet, c'est long, un trajet d'avion, on a parlé du Népal, bien entendu. Et la manière dont il parlait de ce pays que j'aimais, que voilà, m'a suffisamment touché pour que je garde ses coordonnées et que après avoir arrêté de faire des voyages, parce que à la fin des années 80, début des années 2000, j'ai arrêté de proposer des voyages au Népal parce que j'étais trop conscient des ambiguïtés hein, du tourisme. Voilà. Et j'ai donc repris contact il y a quelques années avec Angelo, donc cet éducateur, en lui disant je souhaite retourner au Népal, je souhaite revenir dans ce pays-là, mais je ne veux plus proposer des voyages comme je les proposais avant. Donc on a pas mal réfléchi ensemble et bon, la seule manière dont je pouvais, il m'a demandé qu'est-ce que je savais faire. Bon, moi je ne sais pas faire grand-chose d'autre que d'emmener des gens dans la montagne, c'est mon métier. Et donc on a réfléchi à la manière dont ça pouvait se faire d'une manière plus en cohérence avec ce qu'on peut souhaiter. Voilà. Et donc, j'ai passé une dizaine de journées autour de la vallée de la petite ville de Panauti. Il se trouve que l'endroit, je le connaissais un petit peu avant, il m'attirait parce qu'il est magnifique, magnifique d'un point de vue des paysages, d'un point de vue des villages, etc. Et j'ai exploré cette région et j'en ai sorti un parcours d'une dizaine de journées. Et se posait donc le problème de l'hébergement, puisque c'est un endroit où il y a juste les villages, il n'y a aucune structure d'accueil pour les touristes. Et c'est Angelo donc, qui m'a proposé qu'on utilise les écoles publiques pour recevoir les voyageurs, les randonneurs, pour les accueillir. Et de manière à ce que le fruit du passage des touristes aille directement à ceux qui en ont le plus besoin. C'est-à-dire que très concrètement, puisque l'association était en lien avec le réseau des écoles publiques de la région, puisqu'ils font un travail social donc élargi, qui s'est pas limité aux 50 enfants. Angelo m'a proposé d'utiliser ce réseau. Et donc, on va dormir dans les écoles publiques. L'argent qui correspond à notre passage est reversé à l'association, qui, en contrepartie, crédite le compte de chaque école du montant de notre passage et répond aux besoins des écoles en fonction donc de l'argent ainsi collecté.
Et c'est donc ça dont il s'agit, vous proposer, jusqu'à présent en tout cas, parce que c'est là on va en venir à un autre sujet encore, c'est une émission à tiroir, vous proposer ce parcours de trekking dans le Népal qui du coup effectivement va directement, l'argent en tout cas va directement dans les poches en tout cas de ceux qui en ont besoin pour qu'ils soient dépensés d'une façon concrète auprès des habitants et des usagers de l'école notamment.
Oui, tout à fait. Alors les originalités hein, de ce parcours, hein, tout d'abord donc il y a effectivement cette reversion avec vers les écoles publiques. Donc l'argent va retourner au village, mais va y retourner au village là où il y en a le plus besoin, c'est-à-dire les enfants qui sont scolarisés en école publique, c'est-à-dire les enfants dont les familles n'ont pas les moyens de les emmener dans les écoles privées où ils apprendront l'anglais correctement, etc.
Des écoles qui sont à Katmandou, j'imagine, en plus, non ?
Alors, oui, près. Disons que les familles qui restent dans les villages n'ont pas les moyens financiers d'autre chose que l'école publique. Hein. Donc, c'est l'école à proximité du lieu où ils vivent et où il est souhaitable qu'ils puissent continuer à vivre.
Et ces écoles, comme vous disiez qu'il y a l'État est un peu absent du processus, du coup, elles sont en difficulté aussi ?
Les écoles, c'est... Oui, des moyens misérables. Hein. Et c'est aussi un des aspects du voyage, c'est que le voyageur, ainsi, il est en prise directe avec la réalité sociale du pays. Puisque, donc, il y a les écoles, il y a aussi les familles où on va manger. On est reçu par des voisins de l'école, à midi, entre deux étapes, on va demander... À une femme ou à quelqu'un qu'on rencontre dans les villages, et ça va être une telle, ça ne sera pas la même personne d'un séjour à l'autre, de pouvoir cuisiner chez elle pour faire le repas de midi. Et donc, on a comme ça, en une dizaine de journées, un aperçu assez juste de la réalité de ce qu'est la vie dans ces villages, la réalité des conditions de la femme, la réalité des différences de groupes ethniques, des réalités de caste aussi, hein, et du poids social du fonctionnement des castes qui est encore très, très, très présent sur le pays.
Est-ce que cette façon de faire du tourisme, on va employer un mot à la mode, mais du tourisme conscient, ça a apaisé un petit peu votre impression d'ambiguïté désagréable ?
Alors, oui, disons que pour moi, j'étais devenu effectivement très critique par rapport à la manière dont le tourisme au Népal peut être proposé par les agences d'une manière classique. Et je ne pouvais pas me limiter à dire c'est inadmissible, c'est pas comme ça qu'il faut faire, etc. Il fallait que je me confronte à aller proposer autre chose. Et cette démarche qui a été hésitante, hein, j'ai été passé 10 jours là-bas et je ne savais pas ce qui allait en sortir, m'a amené à creuser les choses et m'a amené, moi personnellement déjà, à beaucoup mieux connaître le Népal que je n'avais pu le connaître par une dizaine d'années d'encadrement touristique là-bas. Et à travailler justement sur la mise en relation de professionnels du tourisme, puisque du coup j'ai estimé qu'il était nécessaire d'impliquer une agence népalaise sur le projet et les gens qui travaillent dans le domaine social. Et rien que par cet aspect-là, par exemple, est extrêmement riche parce que chacun, c'est comme partout dans le monde, mais chacun vit dans sa bulle, dans son monde, hein, dans son univers. Et vu de l'extérieur, quand on découvre le Népal un petit peu en profondeur, c'est très net. Donc, notamment parce que à la structuration sociale se rajoutent les problèmes de caste et donc un poids des traditions, un poids des comportements sociaux normés, qui est très, très fort. Voilà. Et puis, les gens qui sont dans le village, ils connaissent leur village. Ils ne connaissent pas ce qui se passe à 10 km, ce qui se passe de l'autre côté de la crête, ce qui se passe même déjà, rien que d'aller à Katmandou, il y a plein de gens qui ne l'ont pas fait alors que c'est pas loin, c'est à 20 km à vol d'oiseau. Donc, il y a cet aspect de mise en relation de monde différent.
Ça signifie que les pardon, les assos sociales vont par exemple pointer du doigt des endroits où les besoins sont importants et que ça va réussir à vous mettre en relation avec... Avec les bons endroits, en fait.
Les besoins, ils sont à partir du moment où on va dans la campagne népalaise, en dehors des grandes vallées touristiques, ils sont innombrables, hein, ils sont multiples. Hein, donc simplement le fait d'avoir pu m'appuyer sur cette association. Qui avait 20 ans d'existence, de travail. Angelo, il a formé des gens là-bas. Il y a tout un réseau. Ça me permet de mettre en place quelque chose où on ne va pas rentrer dans les jeux de pouvoir locaux ou des choses comme ça. C'est complètement autre chose comme démarche que de dire je vais au Népal et puis je vais consacrer 3% du prix du voyage, etc., à le reverser à une association. Voilà. C'est un lien direct qui se fait entre la personne qui voyage, qui va passer dans les familles, qui va passer dans les écoles, qui va aller voir aussi sur la maison des enfants à Panauti, ce qui s'est fait et ce qui continue de se faire. Et d'avoir un suivi aussi de l'utilisation de cet argent, hein, puisque en retour, ça fait partie des choses que l'on met en place avec Angelo, en retour, cette information de la manière dont l'argent est utilisé est mis en place.
Alors, concrètement, grâce à ces séjours, une possibilité de découvrir le Népal sans être un inconscient, en sachant où l'on va pour de vrai, et puis sans se priver effectivement de la beauté des paysages et puis de la beauté des rencontres que l'on y fait.
Tout à fait. Alors, donc, on va revenir un petit peu sur ce Panauti Mandala du point de vue du regard du touriste, du randonneur, du trekker. Alors d'abord, pourquoi un mandala ? Panauti, c'est bien clair, c'est la petite ville autour duquel le circuit tourne. Mandala, qu'est-ce que c'est qu'un mandala ? Mandala, c'est une peinture, c'est des formes géométriques représentées sous forme de peinture ou sous forme de dessin de sable. Voilà, c'est une tradition tibétaine et c'est un support de méditation et qui représente le chemin vers la connaissance. Donc symboliquement, cet itinéraire se souhaiterait être un petit chemin qui amène à une certaines connaissances de la réalité du pays, de ce pays, autour de la petite ville de Panauti. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a autour de la petite ville de Panauti ? On a des collines relativement montagneuses quand même, c'est-à-dire par rapport à ce qu'on connaît de collines chez nous, c'est raide. Ça monte jusqu'à 2600 mètres. Donc Panauti lui-même, elle-même, c'est à 1400. Voilà, donc c'est dans cette zone d'altitude, 1400-2006. C'est un secteur de village et de culture en terrasse, puisque les reliefs sont escarpés, et de forêts relativement sauvages. Et puis, c'est un véritable balcon en face hauts sommets de l'Himalaya. Ils sont là entre 50 et 100 km à vol d'oiseau. Depuis les crêtes sur lesquelles on randonne, on peut voir depuis le massif des Annapurna jusqu'au Gauri Shankar. Pour ceux qui connaissent, c'est au sommet. Ça représente peut-être 200-250 km de chaînes montagneuses avec des sommets qui sont entre 6000 et 8000 mètres, hein, Annapurna, Manaslu, secteur du Langtang, et puis Dorje Labka et Gauri Shankar, c'est des sommets magnifiques. Donc c'est un point de vue absolument exceptionnel. Voilà, et donc ce parcours, c'est des journées de entre 4 et 6 heures de marche, avec une logistique bien précise mise en place. C'est-à-dire qu'en fait, soit vous pouvez venir avec un séjour que l'agence française pour laquelle je travaille, donc Vercors Escapade, propose, donc ce sera un séjour encadré par un accompagnateur, soit vous pouvez vous adresser directement à l'agence népalaise, si vous êtes un petit groupe ou si vous êtes tout seul même, et à ce moment-là, ça se passe en direct aux dates qui vous conviennent. Donc ce parcours de 10 jours depuis Katmandou jusqu'à Katmandou.
Comment fait-on pour joindre soit cette agence ou concrètement, quelles sont les infos nécessaires pour partir? Qu'est-ce qu'on peut consulter comme site internet ou appeler comme numéro de téléphone?
Alors, site internet. Donc, il y a une page Facebook. Hein. Page Facebook, c'est peut-être pour beaucoup de personnes, l'entrée la plus directe, la plus facile. Il y a une page Facebook qui s'appelle Panauti Mandala. Il y a donc l'agence qui est sur Die de Vercors Escapade qui propose le séjour. Et il y a l'agence népalaise qui s'appelle Nepatrek et qui a un site aussi facilement accessible sur Internet. Et puis éventuellement, il peut y avoir aussi mon numéro de téléphone qui est le 06 77 80 58 56.
Eh bien, merci beaucoup Philippe Guyot, merci beaucoup Sanou Tamang d'être venu parler alors, comment résumer en un mot cette formule. c'est vraiment pas facile parce qu'il s'agit pas vraiment de tourisme tout court, donc voilà, simple.
On va dire cette démarche.
Démarche, tout à fait. Merci d'être venu parler de cette démarche sur les ondes de Radio Diwa. Et puis à très bientôt.
À bientôt, merci.
Merci.
Comment dit-on au revoir en népalais?
Au revoir, c'est Feribetaonla.
C'est très joli, j'arriverai jamais à le dire, mais c'est très joli.
Feribetaonla, c'est à bientôt.
Au revoir, c'est.
Comme bonjour, c'est namasté.
Pas de mots.
Oui. Quand on salue en partant, on dit plutôt ferry baton, là, voilà.
Eh bien, restez bien à l'écoute des ondes de RDIWA. Vous pouvez retrouver toutes nos autres interviews sur notre site internet, le www.rdwa.fr. Namasté.
Namasté.
Sampiriri, sampiriri. Ule razon ki danama banjang re sampiriri. Re sampiriri, re sampiriri. Ule razon ki darama banjang re sampiriri. Ek nale banduk, dui nale banduk, mirgalai takeko. Mirgalai moile takeko hoina maya lai dakeko. Re sampiriri, re sampiriri. Ule razon ki darama banjang re sampiriri. Kukura lai kuti kuti biralo lai suri. Timro hamro maya priti dobato makuri. Re sampiriri, re sampiriri. Ule razon ki darama banjang re sampiriri.
Hey, the bird.
L'interview du jour.